voix nue. Toute cette semaine, Maëlys Bessery rencontre Noël Mamère. Ce soir, l'homme tronc.
Bonsoir Noël Mamère, vous êtes, comme on l'a évoqué hier, un enfant du Sud-Ouest. On a parlé essentiellement de votre enfance, puis de la découverte de nouvelles pensées. Ensuite, il y a eu vos études et vos débuts dans le journalisme. C'est des choses qui se sont faites presque simultanément ou parallèlement. Quand est-ce que vous avez eu envie de devenir journaliste ?
Oh, j'ai eu envie de devenir journaliste assez vite. Quand je suis arrivé à l'université, en 68-69, il y a cette découverte d'un autre monde avec ces intellectuels dont je vous ai déjà parlé. Et puis cette volonté d'exercer ce métier de journaliste. Il se trouve qu'à l'époque, un grand journaliste pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui est aussi un intellectuel, Jean-Claude Guillebeau, qui était une star à l'époque du journal Sud-Ouest, avec son collègue qui est malheureusement décédé, qui s'appelait Pierre Veïté. Et Jean-Claude Guillebeau avait eu l'intelligence d'ouvrir tous les jeudis un 4 pages à l'intérieur de Sud-Ouest qui s'appelait 17-24, dont l'objectif était de donner leur chance et de découvrir des jeunes femmes ou hommes entre 17 et 24 ans qui avaient le goût du journalisme. Et cette page, moi, je la regardais avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'envie, et j'ai écrit un papier qui m'a été refusé par Guillebeau. Donc évidemment, j'étais très, très blessé, considérant que peut-être cet objectif, cette volonté de devenir journaliste, je n'arriverai jamais à l'assouvir parce que je n'étais pas à la hauteur. Et puis j'ai écrit un papier c'était pas pour protester, mais j'ai écrit un papier d'humeur après avoir été rejeté. Et Guillebeau a publié mon papier parce qu'il l'avait trouvé bon. Donc c'était un premier pas. Et le hasard des circonstances a fait que j'ai été mis en contact à la même époque avec le directeur régional de l'ORTF à Bordeaux, qui s'appelait Bordeaux-Aquitaine, pour savoir s'il n'y avait pas un stage. Et il me dit non, on a rien. Mais il me dit tiens, il y a en revanche à Bayonne pour la radio, qui était l'ancêtre des radios d'aujourd'hui, qui s'appelait Radio Côte Basque, on a besoin de quelqu'un pendant un mois pour traduire les informations en anglais, en espagnol. Est-ce que vous vous sentez d'attaque pour le faire? Évidemment, j'ai dit tout de suite oui. Et je me suis retrouvé quelques jours plus tard à Bayonne, où je traduisais les informations pour les touristes en anglais, en espagnol. Il n'y avait pas besoin de maîtriser la langue d'une manière parfaite. Et puis, comme j'avais envie de me faire connaître et de sortir de ce ghetto de la traduction, je prenais le Nagra, le magnétophone de l'époque, qui existe toujours d'ailleurs, mais beaucoup plus moderne et beaucoup plus léger, et je courais, j'allais à Biarritz, à la piscine du palais, là où passaient toutes les vedettes, et je faisais des interviews, on appelle ça des bobinos, que j'envoyais à Bordeaux, et qui étaient diffusés sur l'Aquitaine. Et comme ça, on s'est habitué à mon nom, à la rédaction à Bordeaux, on s'est habitué à moi, petit à petit. Et puis, quand mon contrat a été terminé, le contrat d'été à Radio Côte Basque, tout naturellement, je me suis retrouvé à la rédaction à Bordeaux. Et là, j'ai continué à faire de la radio. J'avais 20 ans. Et à la fin de l'année, un des journalistes qui faisait de la radio et de la télé est nommé dans une autre ville. Et il fallait le remplacer. Et donc, c'est ainsi que j'ai présenté mon premier journal télévisé à l'âge de 20 ans, et que j'ai commencé à faire les deux, la radio et la télé. Donc pour moi, l'école de journalisme, ça n'a pas été une école conventionnelle dans laquelle j'ai été prof plus tard, ça a été la télé. Comme on dit, j'ai appris sur le tas. Donc j'ai appris à faire des commentaires de films muets, j'ai appris à faire des reportages. Toutes les vacances, je les passais à faire mon métier de journaliste, partagé entre la radio et la télé. Et je n'ai jamais eu le sentiment de faire des sacrifices. Pour moi, c'était un plaisir considérable. Et en même temps, à la fac, j'y étais présent pour les travaux dirigés, pour les travaux pratiques.
Vous aviez deux ou trois vies en même temps à cette période, Noël Mamère.
Mais j'ai toujours eu... En fait, je suis en train de m'apercevoir, en vous parlant, que j'ai toujours mené deux ou trois vies parallèles.
Donc il y avait les études, la fac de droit, Sciences Po.
Oui, la fac de droit d'abord et le journalisme, où mes copines très gentiment, c'était pas comme aujourd'hui, prenait le carbone et puis me copiait les cours auxquels je ne pouvais assister. Je travaillais cependant les travaux pratiques et les travaux dirigés que j'adorais. Et puis après, ça a été droit, Sciences Po et journalisme, avec une part un peu moins grande pour le journalisme parce que je considérais qu'il était important. C'est pour ça que j'ai refusé les contrats qu'on m'a proposés pour entrer à l'ORTF. Je considérais qu'il fallait, pour être un bon journaliste, qu'il fallait avoir un minimum de culture générale. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait Sciences Po et la section politique et sociale, qui était celle qui menait à rien, qui ne menait pas au concours, mais qui était la plus généraliste et la plus intéressante. Et donc c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses.
Vous avez eu une solide expérience dans la presse régionale, qui a consolidé un peu l'ancrage régional. Qu'est-ce que vous avez pu y découvrir ?
Oh, l'ancrage dans la presse régionale, oui et non. Oui, ancrage dans l'audiovisuel régional, ça c'est sûr. Puisque de 69 à 75, j'ai quand même beaucoup fréquenté ces couloirs et arpenté la région. Après, j'ai été, pour une petite période, correspondant du Quotidien de Paris, à l'époque où il était dirigé par Philippe Tesson, qui était de gauche, en ce moment-là, et où j'ai rencontré un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui s'occupait des correspondants de province, qui a d'ailleurs été dans votre maison pendant quelques années, qui s'appelait Jean-Marie Borzex, avec lequel j'ai gardé des relations d'amis, et qui m'a beaucoup appris dans le journalisme. Et puis ensuite, j'ai été correspondant de Radio Monte Carlo pendant 3 ans.
RMC,
Radio Monte Carlo. J'ai effectivement, ça m'a beaucoup appris, la presse régionale. Évidemment, je ne la regarde pas avec mépris, je la regarde avec humilité. Et j'ai même fait rédiger ma thèse, oui.
Sur l'information régionale, c'est
sur l'information régionale. Et donc, comme j'étais à la fois acteur, c'est-à-dire que j'analysais les journaux télévisés que je présentais, et j'ai pu me livrer à une étude critique sur ce que véhiculait France 3, enfin l'ORTF à l'époque, je crois que c'était FR3. Effectivement, à l'époque, Chaban était Premier ministre, maire de Bordeaux, président de la communauté urbaine. Donc c'était quand même très 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 Chaban. Quand on pouvait pas tout mettre le vendredi, on en remettait un petit peu plus le lundi.
Vous avez remplacé un présentateur télé à l'époque. Donc petit à petit, cette expérience de présentateur vous a mené à partir à Paris.
Je suis parti à Paris en 1977.
77.
Mais avant de partir à Paris, j'ai toujours mené de front, je n'ai jamais abandonné mon virus d'écolo. Et c'est ainsi que j'ai participé à je vous explique pourquoi, parce que ça explique aussi mon arrivée à Paris. J'ai beaucoup milité contre les tribunaux d'exception, il y en avait encore, les tribunaux militaires, contre la construction de la centrale nucléaire de Broye-Saint-Louis, qu'on appelle la centrale de Blaye. Je vois encore cette réunion publique où je me suis fait traiter de petit con par un militant de la CGT qui défendait avec bec et ongles le nucléaire, comme une partie encore de ce syndicat. Et puis, avec un garçon formidable, d'une grande intelligence, qui est malheureusement décédé il y a longtemps, qui s'appelait Pierre Le Baïf, qui était président d'une association de jeunes écologistes qui s'appelait Jeunes et Nature en Pays Basque. Nous avons fait plein de manifs. Et donc je le vois encore se faire gifler. Il était juché sur une charrette pour nous parler. Et je vois encore monter le baron d'Elbé, qui était propriétaire de nombreux terrains à Guétari et qui avait vendu une partie de ses terrains pour la construction de l'autoroute contre lequel nous nous battions, et qui est venu gifler Pierre Le Baïf. C'est Pierre Le Baïf qui avait aussi eu cette idée géniale d'envoyer à l'adresse personnelle du patron de Péchiné tous les déchets de plastique qui arrivaient d'Espagne sur les plages de Biarritz. Avec lui, nous sommes battus contre la construction du Victoria Surf, qui est un grand hôtel sur la côte des Basques. Avec lui, avec Bernard Charbonneau, nous sommes allés nous battre dans la forêt des Arbailles pour la protéger contre les bétonneurs. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré une figure décédée il y a longtemps également, qui était un paysan qui habitait au col de la Madeleine, qui s'appelait Jean Pitreau, dont la trace reste encore très présente chez les paysans de cette région. Et Jean Pitreau, c'était un militant chrétien qui allait voir ses copains paysans en disant « N'acceptez pas les contrats d'élevage intégrés que vous propose Sanders et ceux qui fournissent la nourriture au bétail, parce que vous allez mal finir. Vous allez finir clodo, ou en tout cas, vous allez finir chômeur. » Et c'est Jean Pitreau qui a accueilli chez lui des insoumis, des gens qui refusaient de faire le service militaire. en échange de leur travail et de leur contribution au travail de la ferme. Oui. Et Jean Pitrot a accueilli, avant qu'il parte pour le Larzac, mon copain José Beauvais et son épouse. Et voilà, j'en reviens à ce que vous me dites, Paris. Je suis arrivé à Paris, à Antenne 2, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, pour rencontrer son rédacteur en chef de l'époque. Le directeur de la rédaction s'appelait Jean-Pierre Elkabbach. Son rédacteur en chef s'appelait Louis Berriot. Et Louis Berriot, il avait fait une émission sur France Inter avec Michel Péricard qui s'appelait La France défigurée. Il était très concerné par les questions d'environnement. Je vous parle de 77, hein, c'était pas, l'environnement n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui dans les médias.
Vous aviez une expérience multiple puisque vous aviez une expérience de journaliste, vous aviez une expérience de militant et de journaliste un peu engagé puisqu'il y avait eu ces films.
Oui, tout à fait. Alors,
régionaux.
Merci de me le rappeler. J'ai effectivement eu mes seuls déboires de ma vie journalistique en région tiennent d'ailleurs à Ellul et à Charbonneau. C'est pas eux qui en sont la cause. Mais dans les années 70, on a créé un comité de défense qui s'appelait le comité de défense de la côte Aquitaine. Et les deux présidents ont été successivement Bernard Charbonneau et Jacques Ellul. Et donc on s'est battu comme des chiens avec Pierre Lebaïf, justement en 1973, aux entrepôts Lainez, qui sont devenus aujourd'hui le centre d'art contemporain. Ces entrepôts sentaient encore la vanille. Nous avons organisé les rencontres écologiques. C'est-à-dire, on avait invité Mouloudji pour le spectacle. Et donc ces rencontres écologiques, c'était une animation et une mobilisation contre la mission interministérielle d'aménagement de la côte Aquitaine. C'est d'ailleurs dans ces locaux que se déroulait Sigma, où j'ai vécu aussi de grands moments, où j'ai découvert des grands artistes. J'ai découvert le Pink Floyd, j'ai découvert le Living Theatre, j'ai découvert Caroline Carlson. C'était vraiment une grande, grande époque de découverte pour moi. Et donc, on a fait ces rencontres écologiques avec Pierre, on s'est battu avec le comité de défense de la côte Aquitaine, et en fait, on a réussi, puisque les seules constructions qui ont été réalisées, c'est à Lacanau. Et l'hôtel qui a été construit sur la dune est en train de se faire manger par la dune, et c'est à Cap-Breton. Mais entre les deux, tout cela a été épargné, et tant mieux, parce que cette côte atlantique est encore un joyau. Donc je pense qu'on a contribué à sauver cette partie du sud-ouest, oui.
C'est fier de toute cette expérience-là que vous arrivez à la télé, et vous vous décrivez vous-même comme le jeune Astérix avec ses moustaches qui arrive dans la rédaction d'Antenne 2 et qui se sent très provincial.
On me fait sentir que je suis provincial. Donc je veux rendre hommage à Berriot parce qu'il a pris le risque de faire venir ce petit provincial. Et j'avais été mis en contact avec Louis Berriot par Pierre Lebaïf avec lequel il était en contact. Et ils avaient créé ensemble une association qui s'appelait Espace pour Demain, qui était une association qui se voulait, et qui est d'ailleurs plutôt réussie, la copie du National Trust en Angleterre, celle qui est propriétaire des falaises de Douvres. Et le National Trust est propriétaire de beaucoup, beaucoup d'espaces en Angleterre qui sont protégés grâce à cette association.
À votre arrivée à Antenne 2, qu'est-ce qu'on vous propose?
Alors, à l'arrivée, en fait, j'ai été recruté à Antenne 2 par Louis Berriot pour créer une émission avec lui qui s'appelait C'est la vie et qui est devenue une émission quotidienne qui a duré 10 ans. Mais au départ, il fallait m'occuper. Donc la première chose que j'ai faite, ça va vous amuser, c'est Berriot qui m'a recruté avec l'assentiment de Jean-Pierre Elkabbach qui ne s'intéressait pas à ces questions, qui était passionné par la politique. Et c'est lui qui m'a demandé, à peine j'avais posé les pieds à Paris, que je suis revenu chez moi, enfin dans mon sud-ouest, pour faire une interview de François Mitterrand, qui ne devait pas être une interview politique. C'était en 77. Mitterrand avait été malmené par la chaîne concurrente, TF1, et Elkabbach voulait que, d'une certaine manière, on fasse mieux qu'eux, c'est-à-dire qu'on ne le malmène pas, mais qu'on fasse une interview politique. Et donc je me suis retrouvé à Latch, à interroger François Mitterrand, mais il était très en retard. À l'époque, les caméras n'étaient pas aussi perfectionnées que c'était les caméras film, et donc la lumière baissait, et je me souviens très bien du caméraman Jean Rey qui me disait « Noël, on va pas pouvoir faire l'interview. S'il est trop en retard, j'aurai pas assez de lumière. » Bon, il est arrivé juste à temps. Et donc j'ai fait cette interview. Et Elkabbach est venu le lendemain faire l'interview politique. Donc j'ai commencé comme ça, puis après j'ai enchaîné par quelques 23 heures. J'ai présenté les 23 heures.
Comment est-ce que vous étiez perçu dans cette rédaction à France 2 ?
J'étais perçu comme un provincial dont tout le monde se demandait pourquoi il était là. Je ne faisais pas partie de la famille, j'étais pas du tout dans le cercle journalistique. Donc ils ont dû se dire, c'est un pistonnet, enfin encore une idée de Berriot qui nous amène à un espèce de paysan. Alors, j'étais pas qu'un paysan, j'étais un provincial, mais ils savaient que j'avais fait des études. Et ça, c'était très mal vu à l'époque. À l'époque, avoir fait des études, c'était un poids plutôt qu'un avantage dans le journalisme. Puisque la mode voulait qu'on se construise seul, qu'on soit autodidacte. Et donc, moi, j'arrivais avec mes études, et je sais pas si ça leur faisait peur, mais c'était une certaine étrangeté. Mais je me suis très vite adapté, en fait. Donc, on a commencé cette émission en septembre 77. Elle a très vite obtenu du succès. C'était la première émission généraliste qui parlait d'environnement et de défense du consommateur et du citoyen. Elle faisait 10 minutes quotidiennes à 18h30.
C'était une émission magazine ?
Oui, c'était une émission magazine, on dirait ça aujourd'hui, mais c'était une émission où je faisais des news. Je faisais 4 minutes de news, 4-5 minutes de news, et le reste, c'était la partie magazine de C'est la vie. Et comme elle a eu beaucoup de succès très vite, elle est passée l'année suivante à 20 minutes. Donc je gardais la même proportion de news.
Et vous faisiez
ensuite, on passait à la partie magazine, sauf cas exceptionnel que j'ai connu et qui ont été pour moi des grands moments de direct, parce que le direct, c'est une drogue dure. J'ai connu, pendant que je faisais C'est la vie, l'élection du pape Jean-Paul II, où on est resté avec Philippe Arouard sans discontinuer pendant une heure et demie à l'antenne. Après, il faut croire que la religion me poursuivait, puisque je faisais encore C'est la vie, et au moment où je le faisais, est arrivé l'attentat contre Jean-Paul II, pouf, allez, deuxième vague, une heure et demie d'antenne sans discontinuer. À l'époque, on pouvait le faire, parce que la pression de la pub et économique et de l'économie n'était pas si importante. Oui, j'ai vécu des moments, et puis je dois remercier de manière posthume Monsieur Defer, parce que c'est lui qui a contribué à faire connaître mon nom à la télévision, peu de temps après que j'ai commencé C'est la vie. On faisait, comme on luttait déjà, ce qui était rare à l'époque, contre ce que j'appelle l'obsolescence de l'information, on faisait des séries. Ça, c'est ce que j'avais imaginé avec Berriot, avec Louis Berriot. La première série qu'on a faite, c'est l'adaptation des transports aux personnes handicapées. Et donc, il y avait des reportages un peu partout, par l'équipe de C'est la vie. Et on avait commandé un reportage à la télévision suédoise qui inaugurait son nouveau métro à Stockholm, qui était adapté aux handicapés. Et il se trouve qu'à Marseille venait d'être inauguré un métro, mais il n'était pas adapté aux handicapés. Donc je l'ai dit, j'ai essayé d'avoir de faire pour qu'il s'explique. Il a toujours refusé de répondre. Et donc l'émission était du lundi au vendredi. Donc le vendredi, je dis aux téléspectateurs, je vous présenterai lundi le métro de Stockholm. Quant à celui de Marseille qui va être inauguré demain, il n'y en aura pas. J'ai essayé de demander des explications à Monsieur Defer, qui n'a pas voulu répondre. Et le lendemain, il y avait un direct depuis Marseille qui était animé par Gérard Rolls, avec Defer, qui était chez lui, donc le proconsul, pour l'inauguration du métro de Marseille. Et là, il dit, hier, j'ai été mis en cause par un monsieur qui s'appelle Monsieur Mamère. Ce monsieur est un grossier personnage, un insolent et un menteur. Bon, d'accord. Donc j'arrive le lundi à la rédac en disant, écoutez, j'ai été mis en cause, je vais faire un procès à Defer. Le cabache me regarde, un procès à Defer. Je dis, oui, je vais faire un procès à Defer. Il dit, je vais faire un procès. Et il avait dit, si je rencontre ce monsieur, je le convoquerai en duel et je tirerai dans la partie basse de son corps. Bon, évidemment, il n'y a jamais eu de duel et j'ai gagné le procès. Mais la presse s'est emparée de cette histoire. Alors, il y avait d'ailleurs des jeux de mots sur le pot de fer contre ma mère, enfin, vous voyez. Et ça a contribué à me faire connaître un petit peu. Et à installer l'émission comme une émission combative. Voilà. Et donc après, on a eu plein de procès avec des éleveurs de poulets, avec tout un tas de pollueurs, oui.
Sur l'adaptation des transports aux personnes handicapées, vous avez traité des thématiques qui sont assez modernes.
Oui, on peut dire que grâce à nous, grâce à cette campagne, la société Deco a inventé les abribus avec des bancs. parce qu'il n'y avait pas de banc pour s'asseoir hein, aux arrêts d'autobus. Donc eux, ils ont le capitalisme est très plastique, donc ils ont très bien adapté sous forme de boutade. Je disais, il n'y a que le Vatican dans lequel on n'a pas encore installé de siège pour les autobus. Oui, on a fait ça, on a fait même une campagne. Malheureusement, maintenant que je suis maire, je vois bien que c'est difficile. On avait fait dans le même temps une campagne pour l'adaptation des bâtiments publics aux handicapés. Donc je demandais aux spectateurs, aux téléspectateurs, de m'envoyer des cartes postales de leur mairie, de la sécurité sociale, les préfectures, qui étaient absolument pas adaptées. C'était en 77. Et une loi qui a été édictée, qui a été votée par le Parlement à l'initiative de Michel Rocard, quelques années plus tard. Oui, on a sensibilisé les gens, mais ça ne s'est pas traduit en politique publique. Mais dans plein d'autres situations, on a gagné des combats. Évidemment, c'était une émission militante.
À cette époque, Noël Mamère, votre personnage s'est affiné. Les racines régionales sont peut-être devenues un atout de proximité pour les reportages, pour l'accès aux gens, dans le choix peut-être aussi des personnalités, des thématiques.
Oui, disons que
les gens se sont habitués collègue, à votre accent du Sud-Ouest, à votre moustache.
Oui, j'avais des grosses moustaches à l'époque. Quand je revois des images, je me dis comment pouvait-il me regarder? Mais enfin, quand je vois les costards qu'on portait aussi avec les copains et les cravates, c'est la mode. Hein. La mode, elle est faite pour être éphémère. Donc, c'était la mode de l'époque. Comment vous dire, j'ai habitué les gens à moi, sans doute. Puis s'il y a encore des gens qui croient que je suis à la télé. Comme disait Laurent Gérard, ma mère, elle n'a jamais fait autant de télé que depuis qu'il n'y est plus. Mais oui, j'habituais les gens, j'entrais dans leur salle à manger tous les soirs. Et effectivement, c'était une télé à côté de la télé, en fait. Alors je participais tous les matins aux conférences de rédaction, les conférences du 20h. À la fin, on me disait « Noël, qu'est-ce que t'as ?» Je pouvais dire ce que je voulais, tout le monde s'en foutait. Et donc c'était une très grande liberté. Et d'ailleurs, sous forme de boutade, mon ami Claude Sérillon, qui était au service société à l'époque, et avec lequel j'entretenais des relations très amicales, avait dit, de toute façon, Noël, c'est la vie, c'est l'information au ras de la toile cirée. Mais il avait raison, c'était au ras de la toile cirée.
Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui, journalisme de proximité?
Aujourd'hui, on dirait journaliste de proximité, ça n'aurait pas une connotation péjorative, puisque le journalisme de proximité, c'est devenu le parangon du journalisme. À l'époque, le parangon du journalisme, c'était d'aller à Beyrouth ou d'aller sur des théâtres lointains et risqués. Mais aller frapper à la porte du voisin, comme on le faisait avec C'est la vie, personne ne voulait le faire, on n'était que quelques-uns. Monique Cara, Alain Valentini, Jean-Claude Alanic, on prenait un grand plaisir. Et donc cette liberté, c'était génial, parce qu'on pouvait faire des reportages, des sujets, comme on dit dans notre jargon journalistique, qui étaient très subversifs. Et on en a fait plein. Et donc c'est sans doute cela aussi, cette liberté de parole, qui a contribué à construire l'image de C'est la vie, et par voie de conséquence, construire mon image. Après, je me suis retrouvé au journal de 13h, c'était pas exactement pareil.
Vous êtes sorti de cette niche de liberté qui était C'est la vie pour devenir le présentateur du journal de midi.
Antenne de midi. Ça s'appelait Antenne de midi. Ah, j'ai eu beaucoup de chance, oui. Bon, j'aimais beaucoup mon émission, j'aimais beaucoup animer C'est la vie. J'en étais le responsable et le présentateur. Donc, c'était déjà une grande chance de pouvoir bénéficier d'autant de responsabilités éditoriales. Et Pierre Lescure est devenu directeur de la rédaction, c'était après 81, tout ça. Et Philippe Labro, qui présentait le 13h, les débuts d'Antenne de midi en fait, est parti faire son film Rive droite, rive gauche. Et c'est là que Pierre Lescure, avec l'accord de Michel Toulouse, qui était son adjoint, et d'Hervé Chabalier, qui était le rédacteur en chef du 13h, c'est là qu'ils m'ont demandé de présenter le 13h. Évidemment, j'ai accepté, c'était pour moi une grande opportunité. Et donc j'ai présenté Antenne de midi, en alternance une avec Hervé Claude, et puis avec Daniel Bilalian. Voilà, et donc j'ai fait le 13h pendant 5 ans, avec un immense plaisir. Là c'est de l'adrénaline pendant 50 minutes, c'est vraiment le plaisir du direct, et donc j'ai connu quelques grands moments journalistiques, la catastrophe du Hezel, je suis allé faire tout un journal aux Philippines après la chute de Marcos, je suis allé faire un autre 13h aussi, très intéressant, après le tremblement de terre de Mexico. Comme nous n'avions pas les mêmes moyens que les Américains, qui étaient, eux, dotés de satellites et qui pouvaient envoyer des images en permanence, nous, on n'avait rien du tout, sinon d'apporter les cassettes à l'avion d'Air France, donc... C'était comme si on avançait avec une charrette à bras à côté d'une Jaguar. Et donc j'ai très vite compris que c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc en accord avec la rédaction en chef, pour le Mexico, c'était Paul Nahon, je leur ai dit, écoutez, je vais rester quelques jours, mais je vais faire autre chose. Donc on a décidé de faire un vrai journal dans la longueur. Et je suis revenu à la rédaction, j'ai donc fait tout un 13 heures sur la chute de Marcos et la réaction des Philippins, et tout un 13 heures sur le tremblement de terre de Mexico, ce qui nous a permis, et c'est ça qui est intéressant, la vraie leçon à tirer de cela, c'est que l'instantanéité, ça tue la réflexion. Donc on peut ouvrir le robinet à images, ça ne permet pas aux téléspectateurs de se faire une vraie idée de ce qui se passe et de comprendre la complexité de la situation. Or, le travail d'un journaliste comme d'un politique, c'est d'expliciter la complexité du monde. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, saisi par le vertige de la vitesse et de l'instantanéité, la tyrannie de l'émotion qui s'y ajoute, on ne laisse plus l'opportunité au téléspectateur, qui est aussi un citoyen, de comprendre la complexité du monde. Et avec des petits, parce que nous avions de petits moyens, ça m'a conduit à faire un journal, disons en profondeur, sur le tremblement de terre et sur le changement de régime aux Philippines, et donc de permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre une situation qui était pourtant très éloignée de lui.
À titre personnel, Noël Mamère, ce que vous avez pu expérimenter, c'est le fait de devenir un journaliste vedette, comme on disait à l'époque, parce que vous étiez extrêmement exposé, parce que c'était une émission quotidienne. Ça a donné une nouvelle ampleur à votre carrière de journaliste, cette popularité.
Je ne sais pas si ça a donné une nouvelle ampleur. À l'époque, on était les rois. On était deux chaînes. Vous imaginez le caractère intrusif de nos émissions. Mais est-ce que ça a changé ma vie? Réponse non. Est-ce que je me suis vécu comme une star? C'est pas à moi de répondre, mais je pense que non. Je ne suis pas entré dans cette spirale absolument destructrice de celui ou de celle qui se vit comme une star et qui pense que tout lui est dû. Non, j'ai pas vécu comme ça. Donc oui, je sais que ma notoriété me précède, même encore, que quand il y a des sondages de notoriété, il y a assez peu de Français qui me connaissent pas finalement, c'est ce qui est assez étonnant. Je le sais ça, mais bon, ça doit pas changer ma vie, ça doit au contraire m'inciter à la prudence et à la distance.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Maïlys Bessery avec Noël Mamère. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Fabien Gosset, réalisation Doria Zénine. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.